Midi 31 minutes, toujours en compagnie de Raphaël Lapierre, et on parle toujours justement de pêche au Sébaste.
Oui, François, ma collègue Laurence Damioul a eu l'occasion de discuter avec Marco Turbide, qui est un autre pêcheur, bon, crabier, pêcheur de homards aussi, mais qui veut se lancer dans le Sébaste. On avait entendu parler de lui, M. Turbide, il y a quelques années, parce qu'il il s'est fait construire un bateau multipêche là, presque spécifiquement là, pour la pêche au Sébaste en vue de la relance. Donc, on est allé chercher lui-même aussi ses impressions. Son cloche un peu différent de M. Éloquin, mais qui rejoint sur beaucoup de points quand même ce que M. Éloquin soulevait. Il se dit prudemment optimiste, Marco Turbide, mais vraiment, comme on le voyait dans l'entrevue avec Denis Loquin, hein, la question de la rentabilité, puis l'importance du volume, puis d'avoir un marché au bout, hein, ça va être la clé, ce qui fait que pour les plus petits pêcheurs, ça va peut-être être difficile. Pour les bateaux semi-auturiers, comme c'est le cas pour Denis Loquin et Marco Turbide, ben déjà, on est dans des volumes qui sont un petit peu plus intéressants, mais vraiment la question des marchés, la capacité des usines à prendre en charge. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce poisson-là? Est-ce qu'on le transforme? Est-ce qu'on l'exporte? Mais c'est une question qui inquiète beaucoup Marco Turbide. Donc, écoutons un premier extrait là, de l'entrevue de ma collègue Laurence en compagnie de Marco Turbide qui nous résume là, justement ses inquiétudes, lui, en vue de la réouverture.
Oui, oui, le bateau est prêt en juillet. Mi-juillet, il devrait être au quai de Cap-Morin, aux îles. Ensuite de ça, aussi la pêche devrait être ouverte en même temps. Je pense qu'on était prévu au début juillet ou fin juillet. Je peux pas t'aduire à l'erreur, en erreur, mais ça va être retardé un peu. Sauf que le bateau va être prêt, la pêche devrait être débutée maintenant. Je peux avoir accès du quota appartenant à de pêche présentement. Je ne suis pas acquéreur ni actionnaire présentement, mais il y a des pourparlers dans ce sens-là. J'ai du poisson pour débuter, c'est pas mon inquiétude, c'est pas là le problème. Le plus gros problème, c'est où aller livrer et à savoir quelle quantité qu'ils peuvent prendre. C'est plutôt ça le problème. Tout l'Est canadien, c'est le même problème, que ce soit Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse ou même le Québec. Mais le Québec, encore pire, c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de transformateurs qui est prêt à transformer autant de volume. Là. Je pense qu'il y en a qui est capable de transformer un peu des petites quantités, mais à gros volume, je pense pas que le Québec est prêt présentement. Établir les marchés, c'est plutôt ça, c'est de savoir où est-ce qu'on en est rendu, quelle est la demande du client, c'est-tu en filet, c'est-tu durant, c'est-tu en Asie, c'est-tu aux États, c'est tout ça qui reste à établir et à travailler. Mm. Et puis, ça peut pas se faire du jour au lendemain, donc on y va dans l'optimisme, patiemment, on va dire, on peut pas s'attendre à une ouverture de marché du jour au lendemain. Ça va être de quoi à travailler mois au mois, année après année, puis c'est du moyen long terme, si on veut. Mm. Pour ce que j'en pense, c'est on y arrivera pas à court terme. Tu sais, je vais faire ma petite part, mais moi je vais me mouiller là-dedans pour... Tout est le bienvenu là-dedans, que ce soit des nouveaux produits, des nouvelles façons. Il faut vraiment être imaginatif puis se dire que c'est une nouvelle pêche. Les marchés, les anciens marchés, peut-être que c'est plus long. C'est toutes des choses. Il faut voir plus grand. Il faut voir plus loin, plus grand, puis très, très ouvert à tout, parce que c'est un poisson polyvalent, de qualité-prix incroyable, avec des bonnes valeurs nutritives. Je pense que c'est un bon produit. Pas je pense, je suis convaincu. Il suffit de convaincre, puis aller voir ailleurs, c'est sûr.
C'est intéressant d'entendre M. Turbide, parce que justement, on voit que en plus des incertitudes qui restent autour du plan de pêche en tant que tel, la mise en marché risque d'être un défi également.
Oui, vraiment. En fait, les défis vont être assez nombreux. Hein. Puis le ministère le disait dès le départ. Hein. On parlait de première phase qui allait servir à être presque exploratoire là, au niveau des marchés. Puis même au niveau de réapprendre à faire cette pêche-là. Hein, parce que des gens qui ont connu les anciennes modalités de la pêche au Sébastien, ça nous ramène à déjà il y a une trentaine d'années. Là, donc, c'est des pêcheurs assez âgés. Il y a une question de transmission de connaissances aussi.
L'évolution technologique, des paramètres de la pêche aussi qui sont
oui.
pas les mêmes.
Là. Puis parlant d'évolution technologique, on l'a dit, Marco Turbide s'est fait construire un bateau sur mesure, le San Marco 7, du côté du chantier naval de Forion. Il devrait arriver aux îles assez bientôt, d'ailleurs, ce bateau-là, là, autour de la mi-juillet. Mais donc, on l'a questionné à savoir un peu la capacité de ce nouveau bateau-là, aussi quelle est sa vision un peu pour la pêcherie, pour le développement de cette pêcherie-là. Écoutons encore une fois Marco Turbide.
Présentement, il est adapté pour le crabe spécifiquement et le sébasse. Tout est faisable avec les dimensions du bateau. Non, ça a été pensé. Le crabe ou le j'ai juste à changer quelques petits détails, puis changer mon équipement un peu. Puis je peux, du jour au lendemain, je peux changer de paire comme ça. Totalement, je pourrais mettre des quantités allant jusqu'à 300 000 livres. Mais mon objectif serait plutôt 200 000 livres dans des bacs isothermiques de grandeur, de petite grandeur, si tu veux, pour pas écraser le poisson. Je veux pas empiler. Je préfère en rentrer moins, mais que tout mon poisson est bien impacté et dans la saumure, c'est une genre de eau glacée, on appelle ça des slurry ice, ça provoque, ça fait comme une genre d'eau glacée, ou slush, mais plutôt une eau glacée.
Ça, c'est pour conserver la couleur, la forme?
Pour la fraîcheur, bien sûr, ça le garde frais.
Évidemment.
Ça l'empêche de s'écraser un à l'autre, ça lui donne comme un soutien. Puis oui, il va avoir une solution dans une autre bac qui garde la couleur rouge. C'est très important. Si on veut le marché asiatique, ils sont très... très, très... je pourrais dire, ils aiment bien la couleur rouge, c'est très important pour eux. Fait que tous ces petits points-là, j'ai mis le paquet, si tu veux, pour optimiser la qualité et la conservation du poisson. Fait que moi, j'ai maximisé vraiment, vraiment mon investissement sur la qualité. Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, j'espère que ça me donne un petit plus pour faire plaisir aux transformateurs.
aller chercher une espèce d'avantage stratégique dans le fait d'avoir finalement un produit qui est le plus proche possible de sa forme, qu'on retrouve directement à l'eau. Marco Turbide disait aussi que lui, à la différence de Denis Loquin, est moins affecté un petit peu par les restrictions, notamment parce que son bateau est équipé pour faire du pélagique. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit pélagique, semi-pélagique, les hauturiers, semi-hauturiers, grand bateau, petit bateau? C'est quand même assez complexe de se démêler, mais quand on parle d'équipement, là, le pélagique, c'est un type d'engin, un filet que finalement on va tendre et qu'on va pouvoir changer sa profondeur dans l'eau, donc qui ne va pas directement sur les fonds marins.
Il ne va pas racler le fond. Là.
Exactement. Là où, lorsqu'on parle de semi-pélagique, ben, c'est un type de filet qui est généralement accroché sur des grosses portes de métal là, et que c'est ça qui va se déposer dans le fond de l'eau, qui va tendre le filet. Et c'est là que, justement, lorsqu'on fait un trait de chalut, ben, ça vient évidemment affecter les fonds marins. Il y a moyen, avec les années, on a développé des manières de faire ça le mieux possible quand même, puis on n'est pas dans des bateaux comme on voit là, dans les reportages sur la surpêche en haute mer, là, mais quand même, là, pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Et dernier extrait là, que je vous ai gardé, c'est justement Marco Turbide qui nous explique un peu au niveau de son équipement, le pélagique, qu'est-ce que ça permet là, de particulier pour la pêche au sébastre?
Ben, en mettant le pélagique qui touche pas le fond. C'est un chalut qui ne dommage pas les fonds marins et qui minimise les prises accidentelles, si tu veux. Quand tu vas mettre ton chalut à l'eau, si c'est des concentrations de poissons rouges, ça m'étonnerait beaucoup que la morue se mélangerait à ces hauteurs-là du fond avec le poisson rouge, mettons. Il n'y a pas de flétant entre deux eaux, si tu veux. Donc le pélagique, c'est sûr que c'est une pêche plus proprement dit. Beaucoup plus écologique, sauf que c'est beaucoup plus d'investissement. Je suis pas sûr que la flotte est totalement prête. Dans mon cas, ça me va parce que je suis prêt, j'y avais pensé. C'était prévu dans mon plan de match, donc je suis prêt à aller au pélagique mettre ça ouvre. Ça fait que dans mon cas, le problème est pas de le capturer ou d'être équipé pour le prendre, c'est plutôt l'approvisionnement, c'est plutôt fournir les usines à savoir s'ils sont prêts, s'ils sont capables. Ou... Donc, ces nouvelles restrictions me touchent plus ou moins. Mais je peux comprendre la flotte que ça les limite ou ça les oblige à investir plus. C'est clair que le bateau qui n'est pas prêt, ben, il y a beaucoup d'investissements, que ce soit le chalut, les portes ou justement l'équipement sur le bateau qui va être ajusté, tout ça, c'est sûr que ça implique beaucoup de frais. Puis selon la grosseur des bateaux, ben c'est très difficile d'aller beaucoup plus cru si t'as pas assez de corps pour y aller ou tes winches sont pas assez gros. Dans mon cas personnel, ça me pose pas vraiment de problème pour les nouvelles mesures qui sont envisagées.
Et Raphaël, si on parle des bateaux hauturiers, carrément des plus gros bateaux qui vont faire la pêche au Sébaste, qu'est-ce qui encadre leur utilisation?
Bien, déjà, il y a beaucoup de craintes en ce moment à voir les restrictions pour les plus petits pêcheurs, de voir est-ce que ça ne va pas finalement avantager ces gros joueurs-là, qui ont plus de moyens financiers pour investir, qui utilisent déjà de l'équipement pélagique.
Et directement plus de volume, évidemment.
Exactement, capacité à traiter plus de volume. Donc déjà, il y a des inquiétudes de ce côté-là, mais tu vois, la ministre des Pêches, Océan, Diane Leboutillier, là, qui s'est engagée à ce qu'il y ait de la surveillance sur les gros bateaux, là, 24 heures sur 24, pour surveiller les prises accessoires, là, que ce soit des agents de pêche océan ou des systèmes de caméras surveillance. Donc, ce qu'on dit du côté du ministère, c'est que ce sera surveillé, mais la crainte, elle est bien réelle. Puis, il faut aussi garder en tête qu'il y a une forme de traumatisme de cette époque-là, de la grosse pêche, les gros bateaux usines.
Qui ont mené au moratoire.
Qui ont mené à des moratoires, exactement, là, sur différentes espèces au fil des époques. Mais donc, à suivre. Mais visiblement, là, la pêche au Sébaste, plus on s'y intéresse, plus on voit que c'est loin d'être aussi simple que ce que les acteurs auraient voulu là, de relancer cette pêche-là qui était abandonnée depuis une trentaine d'années.
Merci pour ces précisions, Raphaël.
Un plaisir, François.